VOA Afrique, les infos. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guiriec au micro. Dans quelques instants, les leçons d'anglais, English USA avec Michel Joseph. Mais d'abord, je vous propose un tour d'horizon de l'actualité. Dissolution du régiment de sécurité présidentielle au Burkina Faso. Les ministres ont profité de leur premier conseil après le coup d'État avorté pour dissoudre le RSP à l'origine du putsch. La disparition du RSP était réclamée depuis plus de 15 ans par la société civile et certains partis politiques. Après la chute de Blaise Compaoré et l'instauration d'une transition démocratique, les demandes de dissolution s'étaient faites plus pressantes, sans que les autorités aient le courage de passer à l'acte face à cette armée dans l'armée. Son désarmement est en cours. Au Burundi, Bujumbura, la capitale, a connu une nuit agitée avec des explosions de grenades et des tirs à l'arme automatique dans différents quartiers du nord de la ville. Une personne a été tuée. Kamenge, le fief de l'ancien chef des services de renseignement, Adolphe Nshimirimana, et ancien bastion des anciens rebelles du CNDD-FDD, aujourd'hui au pouvoir, est entré dans la danse, tout comme le quartier de Kinama. Sidi Toke et Kamenge étaient ce matin bouclés par la police et l'armée. Au Nigeria, prise par l'armée de la ville de Bangui, utilisée par les islamistes comme base pour mener des attaques transfrontalières au Cameroun. Plus de 200 insurgés du groupe islamiste Boko Haram se sont par ailleurs rendus, a affirmé l'armée nigériane. En marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, les militants des droits de l'homme en profitent pour faire entendre leur voix. Les Mauritaniens ont manifesté devant le Palais de Verre pour exiger la libération de Biram Daoud Abeid, militant anti-esclavagiste emprisonné en Mauritanie. Dans l'est de la République démocratique du Congo, au moins 3 soldats ont été tués dans une attaque contre une position militaire à Rumangabo, à 50 km au nord de Goma. En Centrafrique, 335 enfants soldats affiliés à divers groupes armés qui ont été remis à l'UNICEF en mai dernier vont retrouver les bancs de l'école à Bambari.
Dans les rues de Philadelphie, l'ambiance est certes électrique, mais certes...
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Les autorités saoudiennes n'ont pas encore fourni un décompte par nationalité des 717 victimes de la bousculade de mercredi pendant le pèlerinage musulman à Mina, près de la Mecque. Le ministre saoudien de la Santé s'est rendu sur les lieux du drame et l'identification des victimes continuait aujourd'hui. Ici aux États-Unis, le président républicain de la Chambre des représentants, John Boehner, démissionnera de son poste et de son siège au Congrès à la fin du mois d'octobre. La démission de M. Boehner, qui s'est toujours heurtée à la rébellion de ses membres ultra-conservateurs, permet aux républicains d'adopter une mesure de financement temporaire, évitant ainsi une nouvelle fermeture partielle du gouvernement fédéral. Et le pape poursuit sa tournée aux États-Unis. Aujourd'hui, François était à New York, où il a prononcé un discours au siège des Nations Unies. Le pape a appelé les dirigeants du monde à coopérer dans la lutte contre le changement climatique et la pauvreté. Une soif égoïste et sans bornes pour le pouvoir et la prospérité matérielle conduit à la fois à la mauvaise utilisation des ressources naturelles disponibles et à l'exclusion des faibles et des défavorisés, a-t-il déclaré. Il a aussi demandé d'aider les réfugiés fuyant les conflits internationaux. Le président chinois est lui aussi en visite aux États-Unis. Xi Jinping a été reçu en grande pompe à la Maison-Blanche par son homologue américain Barack Obama et son épouse. Les 21 coups de canon ont retenti lors de la cérémonie d'accueil du président chinois. Les discussions avec le président Barack Obama devrait inclure des questions difficiles telles que les pratiques économiques à Pékin et les conflits territoriaux dans la mer de Chine du Sud. Le cyberespionnage était aussi au cœur de cette rencontre. Immigration vers l'Europe, la Croatie a levé vendredi, sous la pression de l'Union européenne, son blocage à la frontière avec la Serbie.
Merci à Morgane pour ce bulletin d'information sur le monde aujourd'hui. Heureux de vous retrouver, chères auditrices, auditeurs, dans votre émission interactive. Aujourd'hui, le Burundi, le pays où tout va bien selon le régime controversé à Bujumbura, un avis dénoncé par l'Église catholique burundaise. Par ailleurs, la même Église, majoritaire dans le pays, a appelé au dialogue politique n'excluant personne. Mais le régime de Pierre Nkurunziza dit qu'il ne va pas négocier avec une opposition, une société civile dont les leaders sont poursuivis pour insurrection. Et l'insurrection dont parle le pouvoir de Bujumbura, c'est la contestation pacifique contre le troisième mandat forcé et en vigueur aujourd'hui. Le président est resté sourd aux interpellations, multiples interpellations de différents partenaires. Conséquence, le Burundi est frappé par des sanctions économiques. Et dans ce studio, Monsieur Gervais Rufyikiri, ancien deuxième vice-président de la République, frondeur, car il fait partie des ténors du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, qui ont dénoncé le forcing du président Pierre Nkurunziza en violation de la Constitution et de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi sur l'alternance à la tête de l'État. Je parle de deux mandats. Et il va nous rejoindre tout de suite au studio. Et dans cette émission, il y aura des auditeurs qui vont nous appeler pour faire des commentaires ou poser des questions. Eric Manirakiza est avec vous pour vous accompagner tout le long de cette émission. Alors, nous avons quelques réactions sur notre page Facebook, sur voaafrique.com. Je commence par Monaoui qui dit que pour une sortie de crise, le président burundais doit accepter d'échanger avec l'opposition et la société civile pour la mise en place d'un gouvernement de large union. Ensuite, arrêter une date dans les plus brefs délais d'un nouveau scrutin électoral inclusif conduit par une commission électorale représentative de tous les partis politiques. C'est à ce prix que le Burundi aura la paix. Voilà, c'est le point de vue de Mona. Il y a Madani Mahmoud qui dit que la paix au Burundi, commencée par la destitution du président, un dialogue national pour former un gouvernement de transition et un an pour organiser des élections présidentielles sans le parti du président burundais, comme c'est le cas au Burkina Faso et qui sont faits pour sortir le pays dans le chaos, le chaos qui règne dans ce pays. Et je rectifie un peu, le parti de Blaise Compaoré n'a pas été exclu, c'est seulement certains leaders du parti qui ont été exclus de la course au présidentiel. Il y a déjà des auditeurs en ligne et je vais poursuivre plus tard à vous lire les réactions. Allô ?
Oui, allô.
Bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Vous êtes en France ?
Oui, je suis en France.
Oui, et votre nom ?
Mon camarade.
Oui, voilà, votre commentaire ou votre réaction.
Oui.
Comment faire pour que la crise au Burundi prenne fin?
Oui, bon, moi, à mon avis, tout ce que moi je peux dire par rapport à la crise du Burundi, parce que tous les jours, les gens meurent à cause d'une seule personne. La solution n'est que les militaires fassent tous les moyens pour faire le coup d'État avec le président pour qu'il puisse quitter au pouvoir, que quelqu'un d'autre vienne à sa place, moi, à mon avis. Sinon, s'il reste comme ça, il ne veut pas négocier avec les partisans, les partis politiques. Finalement, c'est la population qui doit prendre le pot cassé, à mon avis.
Et le syndrome des mandats illimités, c'est un syndrome qui est répandu sur plusieurs pays du continent africain. Et on a l'exemple du Burkina où on a vu une population qui s'est levée comme un seul pour imposer le respect des principes démocratiques, les mandats présidentiels. Que devrait, par exemple, inspirer les Burkinabés aux autres peuples, et en particulier le Burundi?
Par rapport à la situation des Burkina et Burundi, je puis dire c'est un peu différent, à mon avis. C'est un peu différent. Parce que Oui, parce qu'il faut voir, et le Blaise Compaoré a été expulsé directement dès que les militaires sont levés contre lui, dès que la population s'élève contre lui, le monsieur a fait de laisser le pays. Est-ce que tu vois? Maintenant, le président Bourne, il veut plus quitter au pouvoir, toujours, il est là-bas, c'est nos frères et nos parents qui massacrent nous comme nous. Finalement, ça fait pitié. Il faut que les militaires ouvrent les yeux de voir voir la situation. Et est-ce que la population continue là, c'est nos parents ou pas? Et même s'ils sont finis tués, la population, les fils de la nation, ils vont contourner, les fusils contre eux-mêmes. Mmh. Est-ce que tu vois? Moi, quand même, à mon avis, la meilleure solution, il faut que les militaires donnent la main, ils tirent la main, ils font tous les moyens de faire le coup d'État avec le président. Je sais que le mot coup d'État, c'est pas une bonne idée, mais quand même, pour que la situation du Burundi soit réalisée, il faut que les militaires font le coup d'État. Sans le coup d'État, je ne vois pas la solution, à mon avis.
Ah, pour vous, le coup d'État, c'est la meilleure façon pour sortir de la crise.
Oui, c'est la meilleure façon, à mon avis, parce que s'ils ont fait le coup d'État, lui, obligatoirement, il va quitter. Il ne veut plus laisser le pouvoir. Oui. Il veut tenter le troisième mandat.
Il y a eu une tentative de coup d'État, ça a échoué.
Oui, ça a été issu, mais c'est une malentendance. Comment les militaires, ils ne sont pas donner la main. Sinon, si les militaires sont d'accord, si tu vois que quand on dit le président, c'est le militaire qui le suit, il se tient. Sans le militaire, le président ne peut rien faire.
Mmh. Okay.
Il faut que les militaires soient solides. De voir, sans les militaires, lui ne peut rien faire. Si les militaires sont solides, là, le pouvoir, ça va réussir. Ça va réussir.
Mmh.
J'ai dit que le coup d'État a été issu, il faut que les militaires ne soient pas solides.
Merci.
Oui, quand même, à mon avis, quand même, ils font tout possible pour être solides et pour que Burundi soit stabilisé quand même. Il faut le coup d'État. Hein,
merci.
À mon avis, quand même.
Merci pour votre contribution et continuez à suivre cette émission sur VOA Afrique. Une pause et on revient vers vous. Voilà, retour au studio 10 de La Voix de l'Amérique, ici à Washington. Eric Manirakiza avec vous. Nous avons déjà notre hôte, Monsieur Gervais Rufyikiri, ancien deuxième vice-président de la République du Burundi. Bonjour.
Bonjour.
Et dites bonsoir à nos auditeurs partout en Afrique.
Oui, bonsoir tout le monde.
Et dans le monde. Mm-hmm. Oui, justement, aujourd'hui on parle du Burundi. Vous êtes là, on ne pouvait pas ne pas profiter de votre passage dans la capitale américaine. Voilà, on parle de cette crise qui s'intensifie. Et comment nous nous sommes en arrivés là? Très brièvement.
Bon, très brièvement, la crise que le Burundi est en train de vivre... c'est une crise liée à la volonté d'un individu de défendre ses intérêts personnels plutôt que de défendre le bien commun. C'est cet acharnement pour briguer un mandat qui est contre la Constitution et contre le compromis consigné dans l'accord d'Arusha. Et là, beaucoup de voix s'est élevée pour dire non à cette violation de la Constitution, à cette violation de l'accord d'Arusha, mais on a vu que Nkurunziza n'a pas voulu écouter et puis a continué son chemin.
Mmh. Et aujourd'hui, voilà, il y a des morts presque au quotidien. Il y a une situation intenable. Il y a beaucoup de milliers de personnes qui ont fui le pays et qui se sont rendues dans les pays voisins et dans d'autres pays. Tout à l'heure, il y a un intervenant qui se trouve à Paris et qui disait carrément qu'il faut utiliser la force pour le ramener à la raison. Quel est votre point de vue?
Beaucoup de pays amis, mais aussi les Burundais, ont conseillé plutôt la voie de solution pacifique, la voie négociée. Et vous savez que la majorité des conflits qu'on a observés dans ce monde finissent par être résolus par la voie des négociations, la solution pacifique. Et malheureusement, beaucoup de leaders s'entêtent et engagent le pays dans la voie de la guerre et finissent finalement par négocier et accepter la voie de négociation. Alors que si ces négociations avaient été acceptées avant, ça aurait épargné beaucoup de vies humaines, ça aurait épargné les destructions qu'on observe dans l'état de guerre. Et nous sommes convaincus que la négociation pour le Burundi doit rester la voie privilégiée. Et il faut des négociations véritables où les protagonistes parlent et avec franchise, négocient les vraies questions et sans plutôt distraire les gens, sans se distraire. Et nous recommandons plutôt que Nkurunziza et son équipe acceptent la voie de négociation comme principale solution pour ramener une solution durable à la question burundaise. Et la voie de la force dans ce pays qu'il est en train d'utiliser et ne lui donnera pas la chance de continuer à régner, bien au contraire. En Afrique, on a vu même pas mal de leaders africains qui ont utilisé la force pour régner sur la population et qui ont mal terminé.
Oui, on va recevoir cet auditeur qui se trouve au Niger avant de revenir sur cette question de négociation pour voir ce que en dit notre analyste. C'est M. Ismaël Diallo, c'est l'ancien représentant du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme au Burundi. Vous le connaissez très bien, Monsieur le Président. Et nous allons au Niger tout de suite. Bonsoir. Allô ? Allô, bonsoir. Je ne sais pas si notre auditeur est en ligne. Théodore, bonsoir.
Ouais, bonsoir et bonsoir à tous ceux qui connaissent Archiduc Théodore N'Djamena.
Vous êtes au Tchad?
Exactement, je suis au Tchad.
Ok, que dites-vous de la situation burundaise?
Moi, je pense que la situation va de mal en pire. On a un président élu, aimé par plein de personnes qui est en train de mettre du mal à tout un peuple. Le président Nkurunziza devrait ouvrir les yeux et voir ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire que le peuple n'a pas besoin de lui. On n'est pas né pour mourir au pouvoir. Je pense qu'avant de venir au pouvoir, il y avait quelqu'un qui l'a laissé la place. Et il est l'heure à ce qu'il démissionne, qu'il libère le peuple. Parce que quotidiennement, on n'a fait qu'assister à des arrestations, à des tueries, à des tirs à bas réels par les policiers contre un peuple qui manifeste à juste valeur pour réclamer ce qui lui a été volé. Donc, Nkurunziza doit partir pour libérer le peuple burundais.
Oui, vous mentionniez, vous disiez tout à l'heure que l'on n'est pas né pour mourir au pouvoir. Le Burundi a quand même une tradition extraordinaire à l'époque de la monarchie, quand le roi se rendait compte qu'il y avait beaucoup de problèmes dans le pays et qu'il ne pouvait pas les résoudre, il se donnait la mort pour donner la place, céder la place à son successeur et lui donner la chance de résoudre les problèmes. C'était comme ça, Monsieur le Président, à l'époque.
Oui, oui, c'est ce que l'histoire nous apprend.
Ah oui, mais aujourd'hui, on ne se donne pas la mort, mais on cède le fauteuil.
Bon, ce qu'on observe aujourd'hui, vous savez, les choses ont changé. En principe, lorsque les individus sont mûrs démocratiquement, et lorsqu'un président constate qu'il n'est pas capable de résoudre les questions de son peuple, et les élections sont là justement pour organiser sa succession. Et en cas de besoin, mais il ne doit pas terminer son mandat, il peut l'écourter et démissionner. Mais malheureusement, sur notre continent africain, on voit que c'est plutôt le contraire. Les présidents gèrent les États comme leurs propres affaires privées et s'éternisent une fois qu'ils ont la chance d'être investis par le peuple Il manipule le peuple en utilisant les moyens à la disposition de l'État pour mater le peuple et pour s'éterniser au pouvoir et mourir au pouvoir. Ça, c'est la maladie. Et cette instabilité politique, malheureusement, est la base des dégâts économiques que nous observons, qui retardent l'évolution de l'économie des Africains, y compris au Burundi.
Justement, nous allons insister sur cet aspect économique, mais nous nous rendons d'abord en RDC, au Congo, à un auditeur du voisin du Burundi. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Comment allez-vous chez vous?
Oui, ça va un peu.
Mm-hmm. Vous avez une contribution à donner aux Burundais pour sortir de la crise?
Oui, effectivement.
Allez-y.
Oui, effectivement, ce sont nos frères africains. Les choses qui se passent au niveau des Burundi, c'est ça. C'est prévoyant déjà ici, c'est nous précisément au Congo aussi. Parce que nos présidents africains, quand ils accèdent de diriger le peuple, mais ils ne veulent pas laisser le pouvoir facilement. Hein? Précisément, moi, personnellement, je condamne aussi les faiseurs du roi. Quand je dis les faiseurs du roi, ce sont les Occidentaux qui l'entêtent de rester éternellement au pouvoir, tandis que là-bas, chez eux, ils laissent facilement, mais nous ici en Afrique, il faut la donne du sang, il faut nos frères. Ils rendent leurs larmes au Seigneur pour rester éternellement au pouvoir. C'est ça ce que nous déplorons toujours. C'est un peu ça.
Merci de votre contribution. Nous allons revenir ici à Washington pour... retrouver, il y a quelqu'un que nous avons joint à Ouagadougou, c'est l'ancien représentant du haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme au Burundi, M. Ismaël Diallo. Pour lui, le rapport de force doit changer de camp pour contraindre et forcer le pouvoir à Bujumbura à négocier avec l'opposition. Or, pour lui, les sanctions économiques imposées par certains pays partenaires du Burundi ne vont pas dans l'immédiat affecter les dirigeants au plan personnel, souligne cet ancien onusien. Pour lui, c'est la population qui en souffrira. Et monsieur Ismaël Diallo, est-ce que vous pensez que continuer à demander le dialogue est-il une perte de temps?
Trois éléments de réponse dans votre question. Premièrement, l'Église a demandé un dialogue. Elle est dans son rôle et toute personne physique ou morale qui voudrait du bien au Burundi insistera, demandera un dialogue entre toutes les parties sans exclusive. Deuxième élément, dans l'esprit de l'accord d'Arusha, il est maintenant patent que le président Nkurunziza a décidé de se défaire et d'ignorer les accords d'Arusha. Bon, alors, est-ce qu'il faut faire avec ou est-ce qu'il faut insister à retourner aux accords d'Arusha qui ont été le format d'entente et de réconciliation entre les parties belligérantes au Burundi? Troisième élément de réponse, oui, tout le monde veut cela, mais est-ce que c'est une perte de temps? Pour le pouvoir, apparemment, oui, puisque le pouvoir actuellement à Bujumbura dit qu'il ne négociera pas avec ceux qui se sont élevés contre lui et ont été comme des insurgés. Alors, tant que le pouvoir estimera que la force est de son côté, il ne négociera pas, il ne discutera pas. Il faudra malheureusement attendre que le rapport de force change de camp pour qu'il soit contraint et forcé à négocier.
Oui, c'est un pouvoir qui a perdu presque l'aide internationale. Il y a des pays qui ont déjà suspendu leur aide. Vous connaissez ce pays? Est-ce que c'est un gouvernement qui va résister pendant longtemps?
Ça va être difficile. Vous savez, ce pays dépend en grande partie, comme d'autres en Afrique, de l'assistance internationale. Mais les effets de tout blocus, les effets prennent du temps à venir. Et surtout pour le pouvoir, ils seront les derniers, les gens au pouvoir seront les derniers à sentir les effets de l'arrêt de cette coopération externe, extérieure. Alors, le peuple en souffrira. Les services comme la santé, comme l'éducation et autres seront atteints beaucoup plus vite que les gens du pouvoir, qui, eux, ont la latitude d'amasser des biens et de l'argent, d'envoyer leur famille hors du pays. Ça va être difficile. Mais qu'est-ce que l'extérieur peut faire de plus rapide et de plus déterminant? C'est difficile à dire lorsque une intervention directe n'est pas à l'ordre du jour.
Et quels sont les risques du statu quo?
Les risques du statu quo, c'est hélas une détérioration accumulée de la situation là-bas, une souffrance accrue des personnes, surtout les personnes démunies et les personnes à faible revenu. Hélas, et le ralentissement et la détérioration de la qualité des services sociaux, tout cela. Et cela ne contribuera pas à encourager la convivialité entre les Burundais et n'encouragera pas non plus à s'asseoir sur une table, à une table de négociation. Il faudrait que le Saint-Esprit vienne visiter le pouvoir burundais pour qu'il accepte de négocier. Mais cela ne semble pas, peut-être que lui-même a déserté le pouvoir, le camp du pouvoir à Bujumbura, hélas. Alors il faudrait s'attendre à des jours difficiles tant que le pouvoir s'entêtera à vouloir gouverner par la force et seulement par la force.
Quelle autre marge de manœuvre pour empêcher le pire des pires?
C'est difficile à dire. Encore une fois, en dehors d'une intervention extérieure, il faudrait, hélas, que le peuple insurgé soit plus déterminant et il faudrait aussi que le pouvoir ait de moins en moins de puissance de feu. Il faudrait que certaines forces de sécurité et de l'ordre refusent de suivre bêtement et aveuglément le pouvoir, comme cela vient de se passer chez nous au Burkina.
Voilà, c'était Ismaël Diallo, un bon connaisseur du Burundi. Il est à Ouagadougou, porte-parole du Front de Résistance Citoyenne. Il sait de quoi il parle, Monsieur le Président. Nous avons deux auditeurs. Un auditeur au Burundi, il se fait tard là-bas. Bonsoir.
Bonsoir.
Essayez de parler à haute voix.
Oui, je vous entends.
Oui, on parle des conséquences économiques sur la vie des citoyens. Est-ce que vous êtes affecté, vous, personnellement?
Oui, je suis affecté, très, très affecté.
Comment? Comment?
Bon, en fait, si on essaie d'analyser la situation actuelle.
Oui, allez-y, très rapidement.
Oui. Vraiment, le service a été affecté. Clairement, la population est menacée par la pauvreté.
Oui.
Oui, le pouvoir. Dialoguer avec les opposants pour qu'ils mènent à une bonne situation les choses. Vraiment, quant à moi, je vois que le plan doit venir en avant.
Merci pour votre contribution. On sait qu'il y a un citoyen burundais qui vient d'appeler qui dit qu'il est très affecté économiquement à cause de cette crise. Nous avons un autre auditeur au Mali. Bonsoir.
Bonsoir, ça va?
Ça va très bien. Nous sommes dans ce studio avec l'ancien deuxième vice-président du Burundi. Vous pouvez aussi lui poser des questions. Votre contribution ou question?
Ok, donc ce que moi j'aimerais apporter comme contribution, c'est que je ne trouve pas le pouvoir de Pierre Nkurunziza comme le troisième mandat de Pierre Nkurunziza comme un mandat illégitime, parce qu'il y a un problème d'interprétation ici. Pour certains, ils disent que l'accord d'Arusha ne prévoyait que deux mandats. Donc le premier mandat de Pierre Nkurunziza, est-ce que ce mandat devrait être pris en compte ou pas? Donc ici, il y a différentes interprétations.
Est-ce que vous avez lu l'accord d'Arusha et la constitution burundaise?
Oui, j'ai lu quelques parties seulement, sinon je n'ai pas lu l'intégralité. Mais selon moi, personnellement, nous devons faire confiance à la Cour constitutionnelle burundaise.
Restez à l'écoute, une petite pause et on revient vers vous.